Alors, il était amplement question de la stèle de Mécha dans ce colloque, bien naturellement, et je voulais revenir aujourd'hui sur le texte biblique qui est souvent associé et comparé à ce passage-là. Vous voyez que sur le programme, le titre que j'avais proposé au départ était très large pour me permettre ensuite d'ajuster mon sujet, représentation de Moab dans la Bible hébraïque. J'ai choisi de me concentrer sur ce chapitre qui, finalement, a de quoi remplir ma communication et qui est le plus directement pertinent pour une comparaison éventuelle avec la stèle de Mécha. Cela dit, André Lemaire a très bien présenté hier des aspects de la stèle de Mécha qui ont des implications pour la comparaison historique avec le texte biblique, et comme je suis substantiellement d'accord avec lui, je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur le texte pour lui-même, parce qu'il présente des difficultés. Bien entendu, le texte épigraphique de la stèle de Mécha présente ses propres difficultés, on les a vues dans l'exposé d'André Lemaire. Il y a encore des défis pour le comprendre toujours mieux, ce texte. Le texte biblique contient ses propres particularités qui demandent d'autres types d'approches. Et pour mieux approcher ce texte et essayer de lever quelques mystères, ou du moins de comprendre ce que l'on peut en dire aujourd'hui, je vous propose de procéder en deux étapes. Alors, vous avez un exemplaire qui vous a été distribué. Vous trouverez simplement le plan de mon exposé, une brève bibliographie sur 2 Rois chapitre 3, et je me suis concentré dans cette bibliographie sur les articles portant sur le texte lui-même, et non pas sur la comparaison avec la stèle, là ça serait une toute autre littérature. Et je n'ai pas inclus les commentaires qui sont beaucoup plus faciles à trouver. Donc simplement des essais spécifiques sur 2 Rois chapitre 3. Et à la fin, vous avez une traduction de travail qui n'est pas faite pour être élégante, mais pour coller le plus au texte biblique. Je vous propose donc de procéder en deux étapes. D'abord, considérer le texte et des difficultés parmi les plus importantes qu'il présente. Donc un texte truffé d'énigmes, 4 énigmes que nous considérerons successivement. Puis nous essaierons de comprendre en quoi le texte a une histoire. Combien des textes bibliques, on estime qu'il a pu être rédigé en plusieurs étapes. Et c'est peut-être là la clé de certain nombre de difficultés que l'on rencontre à sa lecture actuellement, peut-être. Je propose donc de commencer par considérer une première surprise, un premier élément qui peut nous étonner, c'est que ce texte comporte au moins 2 intrigues qui sont imbriquées, entremêlées. Je vous rappelle brièvement le contenu. Au début du chapitre, on a une notice sur le règne de Joram. Ça, c'est une notice tout à fait habituelle dans le livre des Rois, dans les 3 premiers versets. Et assez rapidement, on en vient au fait en disant que Moab s'est rebellé. Le roi Mécha s'est rebellé contre le roi d'Israël, dont on pense donc qu'il était vassal. Il lui versait un tribut chaque année. Le roi Joram, en bon roi de l'Antiquité, décide de mener une campagne, disons, répressive, peut-être pour récupérer son tribut, pour reprendre le contrôle des territoires moabites. Et il s'allie au roi de Juda, Josaphat, qui accepte d'être de la partie. À partir de là, on a une intrigue. Ces rois-là vont-ils réussir à reconquérir Moab ? Et c'est une intrigue qui nous laissera en suspens jusqu'à la fin du chapitre, avec un retournement de situation, un coup de théâtre final. Mais, à peine entré dans cette préparation d'une campagne militaire, on découvre qu'il y a un deuxième problème qui se pose, un problème de pénurie d'eau. Ces rois-là ont décidé de passer par ce qu'ils appellent la route d'Édom, et très vite, il manque d'eau pour les soldats et pour les troupeaux qui les accompagnent. C'est donc une deuxième intrigue qui est lancée, et qui fait qu'on a une sorte de récit imbriqué au sein du récit. Et sur l'exemplier que je vous ai distribué, sur la traduction, j'ai mis cet épisode en retrait, en le nommant, je crois, consultation d'Élysée. Donc on a une deuxième intrigue qui est imbriquée, un deuxième problème, et il y a une résolution de ce problème qui, étonnamment, est concomitante, en tout cas dans l'annonce de la résolution du premier problème, problème purement militaire. Alors, ça a été proposé, par exemple, par un commentateur, Cohn, dans son commentaire en 2000, sous forme chiastique, donc disons symétrique. Il estime qu'il y a d'abord dans le récit la première crise qui est exposée, avec une réaction qui l'accompagne militaire. Puis la deuxième crise est exposée, pénurie d'eau. La réaction, cette fois-ci, c'est de faire appel à Élysée. Et puis au milieu, entre guillemets, du chapitre, au moment de la structure, il y aurait la résolution des 2 crises qui serait annoncée. Parce qu'effectivement, Élysée donne une sorte de conseil, faites des fosses, il va y avoir de l'eau qui va arriver sur la route d'Édom, dans une sorte de wadi, et puis vous aurez à boire pour vos troupeaux. Et il rajoute, mais ça, ce n'est pas grand-chose pour Yahvé, Il va également faire en sorte que vous, de vous livrer Moab entre vos mains, et il dit à ce moment-là, vous allez détruire chaque cité, etc. Donc on a une annonce de résolution des deux problèmes qui se fait en l'espace de quelques versets. Et puis, dans l'ordre inverse, les crises sont résolues. D'abord la pénurie d'eau, c'est au verset 20, et puis la conquête de Moab. Mais alors, si vous avez écouté ce que j'ai dit une seconde, vous avez le texte sous les yeux, vous voyez qu'il y a un petit problème, puisqu'à la fin, Moab n'est pas conquis entièrement. Au contraire, il y a un coup de théâtre final où le roi Mécha sacrifie le fils qui devait lui succéder et les Israélites se retirent. Et on a là la source d'un problème profond pour les exégètes dans la compréhension de la cohérence de ce chapitre. Alors je ne pense pas pour ma part qu'il faille nécessairement structurer ce chapitre de cette manière-là, mais la structure proposée par Cohn a l'avantage de nous montrer en quoi les deux crises et la question de leur résolution sont imbriqués, et fait surtout ressortir le fait frappant que la résolution des deux intrigues est annoncée au même endroit. Et ça, c'est assez inhabituel dans les textes bibliques. Cela laisse penser à pas mal d'exégètes que deux histoires, deux récits ont été mêlés. Vous voyez au centre, en retrait, sur la traduction que je vous ai donnée, ce texte prophétique que l'on isole souvent du reste du chapitre. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc, deux intrigues. Très bien. La fin, qui est inattendue, c'est un coup de théâtre, et qui demeure mystérieuse. Thomas Römer, on a touché un mot hier. Donc cette fin dit que le roi Mécha sacrifie sur la muraille le fils qui devait lui succéder, et il y a une formule mystérieuse, il y eut une grande colère sur ou contre Israël. Alors ce mot, Thomas Römer l'a annoncé hier, Ketzef a fait couler bien de l'encre. Hein. Je suis d'accord avec lui pour le traduire par colère, mais il y a eu d'autres propositions, et je vous les signale. Selon une première ligne d'interprétation qui est attestée dès l'Antiquité, ce mot désignerait non pas une colère divine, mais une émotion, une réaction ressentie par les Israélites. Et alors, on a eu une quantité de propositions. Comme c'est un mot rare, c'est pas un mot si rare que ça, mais comme le contexte dans lequel il apparaît est obscur, certains ont essayé d'ajuster le sens au contexte immédiat. D'où les propositions suivantes. Dans la Septante, on a proposé qu'il s'agissait d'une repentance ou d'un regret, ce qui laisse penser que les rois d'Israël et de Juda regrettent d'en être arrivés là, d'avoir poussé leur ennemi à sacrifier son fils unique, etc. Donc c'est très noble comme pensée. C'est un petit peu éloigné quand même de la manière dont on raisonnait dans l'Antiquité, je pense. Mais voilà. Une autre ligne d'interprétation qui a été proposée dès la révision de la Septante par Aquila et de la Vulgate, celle d'une indignation. Les Israélites, au contraire, auraient été indignés de ce que le roi Mécha ait procédé à un acte aussi monstrueux. Alors là encore, on peut se demander si c'est vraiment ce qu'on aurait pensé pendant l'âge du fer de ce genre de situation, mais c'est une ligne d'interprétation qui a ressurgi encore récemment. Alors, je crois que vous le trouvez au moins dans la plus ancienne des versions de Louis II, traduction de la Bible. Flavius Joseph, au 1er siècle de notre ère, a parlé de pitié. Les rois israélites et judéens auraient ressenti de la pitié face aux Moabites, et en particulier au pauvre roi Mécha, contraint de sacrifier son fils. Alors c'est dans les antiquités juives, Flavius Joseph présente l'histoire de son peuple aux Romains, et il présente sous un jour relativement favorable. Donc là c'est une pensée très noble, humaniste si on veut, mais qui n'a pas vraiment de support dans le texte, je pense, ni philologiquement, ni dans les mentalités les plus anciennes. Un des premiers commentateurs de la période la plus moderne, Ténius, au XIXe siècle, a fait une proposition également intéressante, mais qui pose le même type de difficulté. Il pense que les Israélites sont venus à ressentir une sorte de colère, mais contre le conflit qui se prolongeait. Parce qu'à cause de ce conflit qui se prolongeait, on en arrive à des horreurs innommables, etc. Et puis enfin, j'arrête là la liste, mais on pourrait continuer, je pense. Au milieu du XXe siècle, Montgomery et Gemma, dans leur commentaire fameux, ont proposé que les Israélites ont paniqué. Et là, je crois que c'est une interprétation ad hoc, en fonction de ce qui suit immédiatement après. La difficulté posée par toutes ces interprétations, c'est que l'on a affaire non pas à un mot isolé « colère », mais à une formulation relativement stéréotypée, dont on trouve des parallèles à d'autres endroits de la Bible. Et ce n'est pas juste que quelqu'un se met en colère, c'est qu'il y a une colère qui surgit et qui vient contre Israël ou sur Israël. Et en fait, ça vienne sur ou contre Israël, ce n'est pas que c'est une colère qui soit survenue ou une réaction dans Israël ou parmi les Israélites. Donc il paraît vraiment difficile de faire dire ce qui était proposé ici au texte biblique tel qu'il se présente, il me semble. Alors il y a une solution qui était proposée par d'autres auteurs. On a envisagé qu'il puisse s'agir d'une émotion ressentie par les Moabites, cette fois-ci. Après tout, le roi de Moab sacrifie son fils qui devait régner après lui, c'est tout de même quelque peu gênant. Alors peut-être qu'il était indigné ou mis en colère par cette extrémité à laquelle les Israélites l'ont acculé. On peut se poser cette question. Il y a une variante qui a circulé parmi les commentateurs rabbiniques du Moyen-Âge et qui se retrouve dans le commentaire de Kimri. Il s'agirait de la colère, non pas des Moabites, mais du roi d'Édom, le roi édomite, dont le fils aurait été capturé et se serait retrouvé chez les Moabites et aurait été sacrifié. Donc c'est vraiment pas ce que le texte biblique a l'air de dire, mais cela vient d'un rapprochement avec un passage difficile du livre d'Amos. Donc aujourd'hui, ça paraît un petit peu fantaisiste, ou disons, c'est une tentative intéressante, mais qui n'a pas vraiment de crédibilité. Alors, l'ensemble de ces propositions, une et deux, hein, qui reviennent à attribuer la colère à des êtres humains, se heurtent au fait que la tournure stéréotypée, standard qui apparaît ici, la colère qui survient sur un groupe humain, c'est dans le reste de la Bible hébraïque la colère d'un dieu. La colère d'un dieu. Alors, plusieurs propositions ont été envisagées. Le plus naturel, entre guillemets, in abstracto, c'est de penser au dieu Yahvé, puisque c'est lui dont il est question dans la Bible hébraïque, c'est lui qui se met en colère en général. Mais cela pose évidemment des difficultés redoutables, parce qu'on peut se demander comment se le fait-il que Yahvé réagisse à un sacrifice fait sans doute pour le dieu national Moabite, Kemosh. Comment se fait-il que ce soit Yahvé qui réagisse? Et comment se fait-il qu'il se tourne contre son propre peuple? On pourrait imaginer un texte qui dise que Yahvé soit en colère à cause de ce sacrifice humain qu'il n'aime pas par ailleurs, et qu'il se retourne contre les Moabites. Mais là, ce sont les Israélites. Hein, c'est Al Israël. Alors, il y a eu des hypothèses, encore récemment, pour essayer d'expliquer cela. Stern, par exemple, a supposé que Yahvé se met en colère parce qu'Israël est allé trop loin. En détruisant le territoire des Moabites, il y a une tradition qu'on trouve dans le Deutéronome selon laquelle Yahvé a attribué ce territoire aux Moabites. Il n'y a donc pas de raison d'aller contre ce plan-là. Alors ça pose des problèmes redoutables de chronologie relative des textes bibliques, des Deutéronomes et des rois, mais surtout ça ne paraît pas vraiment quelque chose de plausible dans le contexte ancien. C'est encore une interprétation un petit peu noble, mais qui est un petit peu difficile à accepter. Une variante a été proposée par Lisa Wehbill dans son commentaire en 2014. Elle pense que c'est une colère de Yahvé, mais qui n'est pas en réponse au sacrifice humain qui est accompli, mais concomitant. Il se produit en même temps, non pas parce qu'il y a ce sacrifice, mais parce que c'est le moment où les Israélites sont vraiment le plus assurés de conquérir Moab, ils sont le plus sûrs de leur victoire, et c'est à ce moment-là que Yahvé aurait choisi d'intervenir et de punir Israël, qu'il avait de toute manière choisi de punir parce que le roi Joram a fait du mal et parce qu'il y a une prophétie depuis longtemps sur sa dynastie. Mais évidemment, ce serait une étrange coïncidence hein, qu'on ait sacrifié, c'est qu'au même moment, il y avait décidé par hasard de faire surgir sa colère contre les Israélites. Donc je n'y crois pas trop. Alors finalement, il y a l'interprétation qui a été proposée par Thomas Römer hier, qui est peut-être la plus favorisée par les commentateurs aujourd'hui. Il s'agirait d'une émotion, donc une colère ressentie par le dieu Kemosh, le dieu Moabite. Un sacrifice s'adresse à lui, il réagit et il se met en colère, et cette colère est dirigée contre les Israélites. L'objection que l'on fait fréquemment à cette interprétation, c'est qu'il est peu probable, il serait peu probable que des rédacteurs du Livre des Rois auraient fait état du dieu Kemosh, actif, qui réagit, qui arrive à être victorieux contre les Israélites en quelque sorte. On ne mentionne pas ou peu souvent les émotions des dieux étrangers dans la Bible. Alors, on peut discuter hein, de cette réaction. Est-ce que c'est pas un peu anachronique pour le Livre des Rois? Il y a quantité de discussions. Vous avez vu hier que Thomas Römer nous a présenté un exemple intéressant dans le Deutéronome. Hein, il y a des états successifs des textes. On peut se demander si vraiment c'est une réaction face à la colère du dieu Kemosh qu'aurait eu un rédacteur antique ou si une réaction moderne face à ce qu'on peut attribuer à un rédacteur. C'est tout un débat. Mais ce qui est certain, c'est que de toute manière, le texte ne mentionne pas Kemosh. Si donc l'on admet que initialement, peut-être dans une source, peut-être dans une tradition orale, la colère était celle de Kemosh, le rédacteur a pris soin de ne pas mentionner Kemosh. Rédacteur ou un copiste, mais toutes nos copies ont le dieu Kemosh qui est mentionné. Donc tel quel, le texte n'attribue pas la colère au dieu Kemosh. même si c'est peut-être le cas dans un état plus ancien de cette histoire. Et cela a donné lieu à une cinquième interprétation. Beaucoup de commentateurs finissent par jeter l'éponge et dire bah, finalement le texte laisse la question ouverte, etc. Enfin, ce qui est peut-être une façon de se défiler face au problème. Hein. Mais en même temps, ça perçoit une vérité, à savoir que le texte est ambigu et peut-être délibérément, ou peut-être par censure, on pourrait discuter. Alors, plus récemment, une nouvelle interprétation, oui, la sixième tout de même, hein, pour le même verset, a été avancée par Morshauser en 2010. Selon lui, il faudrait penser à traduire, non pas colère, mais plaie. Une plaie, une calamité. Et il s'appuie pour cela sur le fait que, en général, quand il y a une colère, souvent de Yahvé, mais enfin une colère divine, qui s'abat sur un groupe humain dans la Bible, et spécialement sur Israël, cela s'accompagne, ça se traduit immédiatement, on pourrait dire, par une calamité, une maladie, du feu, enfin des morts, des gens qui disparaissent d'une manière ou d'une autre. Et il est vrai qu'il y a souvent cette association. Alors je ne sais pas s'il faut cependant faire un raisonnement qui conduirait à trouver un nouveau sémantisme pour le mot Ketsef et dire que cela signifie directement une plaie. Je suis d'accord pour dire qu'il y a souvent une plaie, une calamité d'une nature ou d'une autre, et ici elle n'est pas détaillée d'ailleurs hein, dans le texte de Droit 3, qui accompagne cette colère. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le sens premier du mot Ketsef. Il y a un passage intéressant dans le livre des Nombres, je crois que c'est au chapitre 17, au verset 11, dans la Bible française c'est parfois au, verset 16, au chapitre 16, peu importe, et ce verset dit que une colère est sortie, Yatsa, de devant Yahvé, et que la plaie dont il était question dans le texte a commencé. Et vous voyez que là on fait un distinguo, on distingue deux étapes, la colère qui sort de Yahvé, donc elle est en quelque sorte personnifiée, comme phénomène qui sort de devant Yahvé, et il y a une plaie, mais dans un second temps. Ce qui me laisse penser que colère lui-même ne veut pas dire plaie, mais que c'est une sorte de corréla. Ce qui reste intéressant dans cette interprétation, c'est que même s'il en mentionne explicitement qu'une colère, le fait que les Israélites reculent, ce n'est pas simplement qu'une colère couve dans le ciel à leur sujet, c'est qu'il y a quelque chose de concret qui s'est passé. C'est la logique du texte. C'est ce qui les fait reculer, et ce qui rend un petit peu compréhensif face à leur attitude. Voilà pour la colère, mais il y a un problème qui a fait couler au moins autant d'encre dans les dernières années dans ce texte. En effet, au verset 18-19, Élisée annonce une victoire, semble-t-il. Il annonce une victoire et il donne même des détails, et pourtant, à la fin du texte, on vient de le voir, les Israélites se retirent et ils ne sont pas victorieux jusqu'au bout. Alors, si on regarde un petit peu un schéma qui a été proposé, on peut relever qu'il y a même des choses qui sont faites de manière soigneuse dans le texte. Au verset 19, regardez ce que dit Élisée. Vous frapperez, donc c'est le verbe naka, chaque ville fortifiée et chaque ville importante. Et puis, tout bon arbre, vous abattrez. Toute source d'eau, vous boucherez. J'ai traduit littéralement. Hein, et tout bon terrain, vous gâcherez avec des pierres. Ils vont vraiment saccager le pays. À la fin du chapitre, on a une reprise de ces termes-là. Alors, la phrase qui est notée « apprime » ici, j'ai repris sa structure telle qu'elle, je ne suis pas sûr que j'adopterai moi-même, mais c'est pour vous signaler comment les choses se présentent. Les villes, il les détruisait, c'est un autre verbe que le verbe « nara », et ça c'est important. Et puis, « déprime », « séprime », « béprime », retrouve des échos en sens inverse, dans l'ordre inverse, aux trois phrases BCD. Dans chaque terrain, chacun jetait sa pierre de telle sorte qu'il l'en remplissait, donc il gâchait entre guillemets le terrain, qui ne serait plus utilisable tel quel pour l'agriculture, pas immédiatement en tout cas. Chaque source d'eau, il a bouché, et chaque bon arbre, il a batté. Cette technique consistant à répéter des éléments qui apparaissaient plus haut dans un texte en ordre inverse est une technique typique pour faire une citation ou pour créer un écho entre deux versets. Et puis à la fin, regardez, il y a un verset très mystérieux que j'ai traduit très littéralement, mais sous réserve de toute correction possible, hein, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ces pierres, un suffixe un peu étonnant, dans Kir Areshet. Et puis les frondeurs l'encerclèrent, cette ville, et la frappèrent, et là on a le verbe Nara. Alors vous voyez qu'il y a un mélange. D'un côté, il y a des choses que Élisée a annoncées qui s'accomplissent telles quelles. Et on a une reprise en ordre inverse pour le signaler. De notre côté, la notion sur laquelle ils vont frapper chaque ville, le verbe Nara, ne se retrouve pas utilisée exactement de la même manière. Et de surcroît, et c'est là le problème majeur, Élisée a annoncé la chose suivante, que Yahvé livrera Moab entre vos mains. Or, est-ce que l'on peut dire que, vraiment, Moab a été livré entre les mains d'Israël? Alors, c'est toute la question, et il y a eu plusieurs interprétations. Vous voyez, la recherche est encore active sur ce chapitre. Certains disent qu'il y a eu bel et bien un accomplissement plein et entier de l'oracle d'Élisée. Alors, certains affirment que la prédiction était correcte, mais qu'elle ne contenait qu'une vérité partielle. Yahvé a dit qu'il livrerait Moab dans les mains d'Israël, mais il n'a pas dit que c'était jusqu'à un certain point. Il l'a fait pendant un temps, jusqu'à la capitale, et là, il ne l'a pas précisé en avance. Là, il a retourné la situation contre les Israélites, ou il a permis qu'elle soit retournée contre eux sans intervenir, si c'est Kémosh qui a appliqué sa colère contre Israël. Alors, la difficulté, bien sûr, c'est que l'expression « livrée entre les mains », dans la plupart des récits de guerre de la Bible hébraïque, c'est une façon d'évoquer une victoire pleine et entière. On peut imaginer que Élisée soit un petit peu farceur, mais quand même, le langage qui est utilisé ici est sans équivoque. Alors, Sprinkle, en 2000, a proposé que la prédiction était correcte, mais qu'elle a été faite sans signaler une conséquence. Donc c'est encore le côté Élisée un petit peu farceur, hein, qui ne dit pas tout. Il leur dit, vous boucherez les sources, etc. Vous détruirez les arbres, les bons arbres, donc qui ont du rendement en termes de fruits, par exemple. Mais il n'a pas précisé qu'en faisant cela, les Israélites violeraient une loi du Deutéronome. C'est dans le Deutéronome au chapitre 20, il y a une sorte de préoccupation, d'interdit, disons, de ne pas, dans certaines circonstances, hein, c'est assez complexe, interdiction de détruire tous les arbres fruitiers d'une région. Si vous faites ça, vous faites en sorte qu'il y aura une famine par la suite, même après votre siège. Donc c'est quand même assez désastreux. Et c'est pas forcément une bonne tactique si vous voulez conquérir un territoire que de détruire son agriculture. Ici encore, ça pose des questions de chronologie relative des textes entre le Deutéronome et le Livre des Rois. Mais surtout, si on regarde de près, ce n'est pas vraiment la même situation qui est évoquée dans Deutéronome 20. Donc c'est encore une fois une interprétation intéressante, mais qui sans doute ne s'applique pas dans notre cas. Et vraiment, ça serait beaucoup lire entre les lignes. Alors certains, comme Westbrook, ont proposé une autre variante. Vous voyez, hein, les textes suscitent quantité d'interprétations. Selon lui, l'oracle serait techniquement vrai. Techniquement vrai, mais avec une certaine ambiguïté qui a pu induire en erreur le roi Joram. C'est parce qu'il n'avait pas été assez attentif aux mots choisis soigneusement par Élisée. En effet, Élisée dit qu'il va frapper. Vous frapperez, Nara. Mais ce verbe-là est très flou en hébreu. On peut hésiter à le traduire par frapper, ou détruire, tuer, porter un coup qui va vraiment porter ou pas, si vous voulez. Cela ne signifie pas forcément une victoire éclatante. Et donc, si le roi Joram est allé se plaindre de retour au pays à Élisée en lui disant « Mais qu'est-ce que tu m'as prédit? Ça n'a pas marché, ta prophétie ?» Peut-être que Élisée aurait pu répondre « Oui, mais attends, regarde, moi j'ai utilisé mes mots soigneusement, j'ai dit « Vous frapperez, j'ai pas dit « Vous serez victorieux, j'ai pas dit « Vous allez conquérir. » » Donc c'est la casuistique, hein, c'est vraiment une interprétation. Voilà. Et alors, Jesse Long, en 2007, a répondu à cet article de Westbrook en suivant son interprétation, mais en la modifiant, selon cet auteur. L'oracle est techniquement vrai, il y a un jeu sur Nara, mais il est avant tout destiné au lecteur, c'est un jeu littéraire. Et le roi Joram était bel et bien la cible d'une duperie de la part d'Élisée. Élisée aurait voulu envoyer Joram à une situation catastrophique, où il aurait peut-être même pu perdre la vie. Alors de toutes ces interprétations, il ressort quand même une tendance qui est de dire que l'oracle d'Élisée a induit en erreur le roi Joram, et puis Josaphat qui l'a accompagné. Je ne suis pas sûr qu'on puisse accepter ces interprétations dans la mesure où il reste cette difficulté. Yahvé livrera Moab entre vos mains, ne s'est pas réalisé. Et il est un peu difficile de dire, il ne s'est pas réalisé jusqu'au bout, ou que ça s'est réalisé jusqu'à un certain point, ça paraît un petit peu ajouter des choses au texte et ne pas suivre sa logique. Alors s'il ne s'est pas réalisé, pourquoi ? Pourquoi est-ce que cet oracle ne se serait pas réalisé? Tous les oracles ne se réalisent pas dans la Bible hébraïque. On peut se demander pourquoi. Alors certains disent que tout simplement, Yahvé, peut-être parce qu'il a utilisé Élisée pour tromper ou duper Joram, avait promis, dans le premier livre des rois, au chapitre 21, si ma mémoire est bonne, de punir la dynastie d'Akab. Or, Joram est le fils d'Akab. Donc le plan, si vous voulez, sous-jacent de Yahvé depuis plusieurs chapitres, c'est de nuire à la dynastie d'Akab. Alors la difficulté, c'est que Joram ne meurt pas hein, dans ce chapitre. Il mourra plus loin hein, dans l'histoire de Jéhu, si je me rappelle bien. Une deuxième interprétation très intéressante parce qu'elle fait appel à des réalités de l'Orient ancien, de celle de Tim Mayer, postule que l'oracle d'Élysée a été contré par un rituel. Un rituel de type, entre guillemets, Nambourbi, en Mésopotamie, et ça c'est très important de le savoir. Les gens n'étaient pas nécessairement fatalistes. Ce n'est pas parce qu'ils avaient trouvé un présage en regardant un signe cosmique, une éclipse, ou alors en lisant dans les entrailles d'un animal, ou en recevant un oracle, qu'ils acceptaient cela comme quelque chose qui allait nécessairement se produire. Ils pouvaient procéder à des oracles, à des rituels, éventuellement se repentir devant telle ou telle divinité, afin d'infléchir leur volonté et d'infléchir le destin. Ce n'était pas un destin tracé tout à l'avance. Et là, l'idée, c'est que le roi Mécha aurait accompli un rituel, un rituel assez extrême, en tuant son fils, afin de contrer cet oracle qui avait annoncé une victoire d'Israël. Alors, je trouve ça intéressant parce que ça nous plonge vraiment dans les réalités de l'Orient ancien. Ce qui me cause difficulté dans cette interprétation, c'est que cela suppose, dans la logique interne au texte, dans le monde projeté par le texte, dit Ricoeur, que les Moabites avaient connaissance de l'oracle d'Élysée et qu'ils voulaient vraiment y répondre. Alors, comme les rois à l'époque partaient en guerre normalement en consultant les divinités, on peut se demander dans ce texte-là, ils auraient peut-être pu se dire, oui, le roi d'Israël a consulté ses dieux, son dieu, il lui a donné un oracle, je vais contrer cet oracle. Mais ça reste un petit peu spéculatif. Et ça cause une difficulté, et il n'est pas sûr du tout que le roi de Mécha ait raisonné de cette manière-là. En se tournant plutôt du côté de la contingence des prophéties en Israël, mais du point de vue des Israélites, Kissolm, en 2011, a proposé une variante. Sans lui, la réalisation de l'oracle d'Élysée était conditionnée à sa mise en œuvre, si je puis dire, par les Israélites. Vous savez que les oracles dans la Bible hébraïque qui sont donnés par des prophètes ne sont pas toujours faits pour s'accomplir. En général, quand ils ont du succès, c'est même qu'ils ne se sont pas accomplis. Le cas d'école, c'est la fameuse histoire de Jonas, où il annonce que Ninive va être détruite dans 40 jours. Les Ninivites se repentent, et puis finalement, elle n'est pas détruite. Donc c'est un oracle qui a eu du succès parce qu'il ne s'est pas réalisé. Et il est vrai que bon nombre d'oracles comme ça étaient contingents, ils étaient, conditionnés à tel ou tel comportement de la part du peuple qui les recevait. Et donc, cette fois-ci, les Israélites auraient fait, entre guillemets, faillir l'oracle parce qu'ils se sont retirés à la fin. Mais je ne crois pas que cette logique soit vraiment celle du texte, surtout si l'on comprend qu'ils ont été frappés par une colère divine accompagnée d'une calamité, que ce soit Yahvé ou Kémoche. Moi, je comprends tout à fait qu'ils se soient retirés. Je ne pense pas qu'on puisse leur en vouloir, ça ne me semble pas la logique du texte. Et puis enfin, selon Rachel Gilmour, elle a proposé une variante. Élysée aurait formulé des directives. « Vous boucherez les sources », etc. Et il n'aurait pas suivi cela. Mais encore une fois, je trouve ça un petit peu, un raisonnement un peu complexe, alors que peu avant, on a des formules où on dit que Yahvé a dit que, et puis ça sera peu de choses pour Yahvé parce qu'il va faire ça. Donc Yahvé est vraiment impliqué là-dedans, donc ça ne me paraît pas convaincant. Ah oui, c'est ces difficultés-là. Alors peut-être que la clé de tout cela tient au fait que notre récit en imite un autre. Peut-être que là, on aura une clé de lecture intéressante. Si vous relisez le premier livre des rois, chapitre 22, vous retrouverez des formules qui ont des échos dans notre chapitre. Et c'est assez frappant, des formules parfois presque mot pour mot. Situation similaire avec le père de Yoram, donc Akab, qui demande à Josaphat de partir en guerre avec lui. Même réponse que celle que fera Yoram, son fils, plus tard. Avec une même question du roi judéen, est-ce qu'il n'y aurait pas un prophète de Yahvé par ici qu'on puisse se consulter avant de partir en guerre? Puis une annonce de victoire, c'est la première parole que prononce le prophète Michée, prophète yaviste, de la manière qu'Élysée va annoncer une victoire. À la fin, il y aura une défaite d'Israël. La différence, c'est qu'au chapitre 22, en roi 22, il y a toute une scène fascinante où le prophète Michée révèle que finalement, ce qu'il a dit une première fois, c'était faux, qu'en fait, il y a un plan divin pour duper le roi Yoram et l'envoyer au combat pour son malheur. Et puis le roi Akab, a la mauvaise idée de partir quand même en guerre. Et ça ne trouve pas d'écho dans notre chapitre de roi 3. Ce qui est remarquable ici, c'est que le lecteur qui a déjà lu un roi 22 est préparé à lire de roi 3 en s'attendant à une situation un petit peu similaire. Et donc, il est, certains le pensent, conditionné à s'attendre à ce qu'il y ait une duperie de la part du prophète et que l'on veuille la perte du fils d'Akab, avec toujours cette prophétie lancinante hein, selon laquelle la dynastie d'Akab, il sera mis fin, et Élie lui-même avait dit, il sera mis fin pendant le règne de Joram. Alors si c'est cela, ça soutiendrait la première des interprétations précédentes selon laquelle il y avait une volonté de nuire à la dynastie d'Akab, et que c'est pour ça qu'il y avait, si vous voulez, n'a pas permis la réussite complète d'Israël, qu'il y a eu un coup de théâtre à la fin, qu'il a autorisé ou agencé de telle sorte que l'Israélite perde. Avec ce défaut que Joram ne meurt pas encore. C'est pas que j'ai envie qu'il meure, mais il faut attendre de longs chapitres avant qu'il décède. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'en 1 roi 22. Alors nous avons vu quantité de difficultés, et je voudrais avancer en essayant de nous pencher sur la diachronie de ce texte. Hein. Le livre des rois, tout le monde s'accorde à le dire, je pense aujourd'hui, enfin la plupart des gens, a été écrit à base de sources, et sans doute en plusieurs étapes. Et on cherche souvent la clé de la compréhension des difficultés de ce texte dans l'histoire de rédaction du passage. Et je vais commencer par le cadre chronologique qui est posé au verset 1 à 3. C'est le passage apparemment le plus simple de ce chapitre. Hein. Reportez-vous s'il vous plaît à la traduction. C'est une notice tout à fait standard sur un règne avec des dates et avec l'idée que le roi a fait le mal ou le bien, mais là c'est le mal, aux yeux de Yahvé. Donc c'est tout à fait standard. Mais il y a des difficultés que certains exégètes ignorent et il faut les considérer. J'ai présenté la situation de la manière suivante, simplement la succession, le plan de ce qui se passe dans ces trois premiers chapitres et qui amène à notre récit. Tout commence au début du second livre des rois par une formule lapidaire. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Et aussitôt après, on passe à toute autre chose, à des récits qui concernent Élie, le roi Akazia, et on a complètement changé de sujet. Il faudra attendre notre chapitre pour retrouver une formule similaire que j'ai mise en rouge. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Ce qui est extrêmement intéressant. Pourquoi est-ce qu'on répète cela ? Alors, une possibilité, une option que certains exégètes envisagent, mais c'est difficile de la pousser très très loin, ce serait que les récits sur Élie et Élisée qui meublent la plupart de ces trois premiers chapitres auraient été insérés à cet endroit-là du livre des rois, et que l'insertion aurait été marquée par ce qu'on appelle, alors c'est le seul mot allemand que je vais utiliser, une Wiederaufnahme, une reprise, hein, c'est une tactique tout à fait standard des scribes dans la Bible hébraïque, pour signaler qu'ils ont inséré un texte ou pour lisser les transitions. Après avoir inséré le texte, ils reprennent un morceau de ce qui était juste avant, histoire de dire « revenons à nos moutons, j'étais en train de dire que… Voilà. » Alors c'est une possibilité. Le risque avec cette possibilité, c'est que si on enlève tout ce qui entre, il y a les notices d'introduction au règne de Joram, qui normalement sont là dans le livre des rois, dans l'édition la plus ancienne. Donc il faudrait agencer cette hypothèse avec les notices qu'on trouve sur règne de Joram, soit au chapitre 3, soit, je vais dire dans un instant, au chapitre 1. Donc un petit peu de complexité là-dedans. Ce qui est certain, c'est que pour… disons, un courant assez large de l'exégèse actuelle, les récits sur Élie et Élisée ont été insérés dans le livre des rois dans un second temps. Toute une série d'arguments qui soutiennent cette thèse, selon laquelle ce sont des textes peut-être anciens, mais en tout cas qui ont été insérés relativement tard, certains disent à l'époque perse, et cela collerait bien avec l'idée que là, ces passages n'étaient pas dans le texte le plus ancien du livre des rois, qui est un texte qui a évolué au fil des siècles. La deuxième chose frappante, et là je l'ai mis en gras, c'est qu'il y a donc des notices sur le règne de Joram, et il y en a à deux endroits. Bon, ça c'est une véritable énigme. Il y a d'abord une notice brève dans le texte massorétique qui dit que Joram monte sur le trône, et puis on a des récits sur Élie et Élisée, notamment l'ascension d'Élie, donc la transition avec le ministère prophétique d'Élisée. Et il y a au même endroit, donc du chapitre 1, dans la traduction des Septante, traduction qui a peut-être été faite au IIe siècle avant notre ère, mais en suivant très fidèlement des manuscrits hébreux qui existaient, cette Septante a ici une notice plus longue, qui correspond à la notice longue qu'on a dans le texte traditionnel au chapitre 3. Alors c'est un état des choses assez complexe. Pour simplifier un tout petit peu le paysage, je peux vous signaler que la brève notice du TM, texte massorétique, en 1.17, est sans doute tout à fait secondaire. Et pour une raison très simple, elle suit la chronologie de la Septante. Alors, pour vous expliquer un petit peu cela, le Livre des Rois nous est connu sous deux formes, deux éditions. Il y a des livres bibliques comme ça qui existent sous deux éditions, avec parfois des suppléments, des éditions révisées et augmentées, des éditions où on a transposé, changé de place des chapitres. Ça se voit très bien dans le livre de Jérémie, par exemple, mais il y a quantité d'exemples. Et le Livre des Rois, dans sa traduction grecque, est assez différent du Livre des Rois tel que vous pouvez lire dans les traductions actuelles, qui sont fondées sur le texte hébreu médiéval, le texte massorétique. Et parmi ces différences, il y a la chronologie. La chronologie des rois d'Israël et de Juda est un sujet extrêmement complexe. Et dans le débat actuel, le débat académique, il y a des chercheurs qui pensent que l'édition du Livre des Rois dans le texte hébreu massorétique reflète la chronologie la plus ancienne. D'autres pensent que c'est la Septante. Si vous vous reportez à votre bibliographie, si vous êtes très curieux que vous vous ennuyez le soir, vous pouvez lire des livres qui ont été consacrés au sujet. Je vous ai mis 3 livres de chaque bord pour vous faire votre idée. C'est un, trois publications de chaque bord, puisqu'il y a au moins un article. Certains, dernièrement, disons, il a été un petit peu à la mode, en particulier à Harvard, de postuler que c'était la Septante qui avait raison sur ce point, qui conservait la chronologie la plus ancienne. Mais il y a des travaux récents publiés et en cours de publication qui disent le contraire. Et en particulier, Ronald Handel a trouvé une explication à la chronologie de la Septante qui serait secondaire. En résumé, donc je ne veux pas rentrer dans ces détails, je vais adopter comme hypothèse de travail ici que le texte massorétique a préservé la bonne chronologie. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la brève notice sur l'avènement de Yoram suit la chronologie contradictoire. Ça, c'est sans doute un script qu'il a rajouté en fonction de manuscrits qu'il avait sous les yeux, il a harmonisé, et donc, pour les spécialistes, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre en compte. Sans doute, des manuscrits hébreux qui circulaient, de temps en temps, ils faisaient des gloses, ils reportaient des choses, et là, c'était quelque chose de très maladroit. Ce qui reste, c'est qu'il y a 2 notices introductives sur le règne de Yoram, une au chapitre 1 dans la Septante, et une au chapitre 3 dans le texte massorétique. Donc vous voyez que là, ce sont des choses qui ont bougé selon les éditions du Livre des Rois. Il y a des organisations qui sont différentes. Qu'est-ce qui compte pour nous réellement là-dedans, dans ce débat assez complexe que je ne fais qu'effleurer ? Eh bien, c'est le fait que l'identité des rois qui partent en guerre n'est pas tout à fait la même. Vous voyez, dans la campagne militaire de Moab, contre Moab, bon, tout en bas de cette diapositive, dans le texte massorétique, ce sont Yoram et Josaphat qui partent en guerre. Mais dans le texte de la Septante, ce sont Yoram et Akazia, un roi de Juda, un autre roi qui part en guerre. Et il y a tout un débat donc pour savoir quel est l'état primitif du texte. S'il faut choisir, à titre d'hypothèse de travail actuelle, je prendrai le texte massorétique pour des raisons assez compliquées, que je ne vais pas détailler ici. Mais il y a un débat, et alors, pour compliquer un petit peu la chose, ou la simplifier selon votre point de vue, il y a pas mal d'exégètes qui pensent qu'au départ, le récit évoquait des rois anonymes. Il y a quantité de textes dans la Bible hébraïque où on dit le roi d'Israël, le roi de Juda, le roi d'Israël. Et dans les manuscrits, on voit parfois des noms propres qui apparaissent, dans les traductions anciennes. On précise, un peu dans nos traductions aussi d'ailleurs, actuelles, pour aider le lecteur. Selon certains, il y a des récits comme ça sur des guerres des rois d'Israël et de Juda, qui étaient d'abord anonymes, entre guillemets. On dit le roi de Juda, le roi d'Israël. Et puis on aurait eu le souci, dans un deuxième temps, de donner leur nom. Rassurez-vous, même si l'on adoptait cela, étant donné la succession des rois et des événements tels qu'on peut la comprendre, on serait quand même d'accord qu'il s'agit de Yoram. Donc ça ne changerait pas ce qu'a dit André Lemaire hier. Mais je vous signale ce problème qui est encore un sujet de recherche actuel. Voilà donc pour la notice du début du chapitre qui avait l'air pourtant si simple. Maintenant le récit. Qu'en est-il du récit ? J'aimerais vous dire que c'est simple et finir mon exposé tout de suite, et j'ai plus que quelques minutes. Mais il y a eu quantité d'hypothèses sur ce récit, et attention, je vais vous faire peur, aussi un tableau qui résume, peut-être pas toutes les positions, je n'ai pas cherché à être très exhaustif, mais nombre de positions qui ont été proposées au fil des années. Alors, on ne va pas le regarder en détail, mais simplement observer que pour beaucoup de chercheurs, il y a eu d'abord un récit initial, et si vous regardez un petit peu, sans vous plonger trop dans les chiffres, vous verrez que souvent, il va du verset 4 au verset 9, parfois un petit peu plus tôt, verset 6 ou 5. Et puis, il se termine par les derniers versets du chapitre, 24 à 27, voire un petit peu plus. Ça serait le récit primitif. qui serait un récit, entre guillemets, purement de bataille, hein, entre Israël et puis Moab. Et puis, la plupart des exégètes s'accordent pour penser qu'il y a une insertion prophétique. Un récit sur Élisée que vous avez en retrait, encore une fois, dans votre traduction, pour votre commodité. Avec des variations sur la taille exacte de récit, les bornes précises, etc. Mais l'idée principale, c'est ça, un récit premier de guerre, dans lequel on aurait inséré un récit sur Élisée, de manière assez standard, finalement, j'ai envie de dire, pour ce qu'on pense aujourd'hui dans le livre des rois. Alors, je vais venir dans un instant pour vous dire pourquoi, et puis ensuite, vous voyez, à d'autres propositions un petit peu isolées. Alors, pour vous expliquer les choses de la manière la plus simple possible, si l'on considère le récit sur Élisée, le fameux récit sur Élisée qui est en retrait, hein, oui, qui va du verset 9 jusqu'au verset 19, pardon. Qu'est-ce qui fait qu'on a souvent envie de dissocier de ce qui est autour? Eh bien, il y a la théorie générale selon laquelle les récits sur Élie et Élisée sont secondaires, dans le livre des rois, bien sûr, donc ça a d'autres arguments. Mais ici, localement, on peut remarquer qu'il n'est pas question d'Élisée au début, il n'est pas question d'Élisée à la fin. Il y a dans ce paragraphe, disons, prophétique, beaucoup de théologie, y compris le nom de Yahvé qui apparaît 10 fois, ce qui n'apparaît pas dans le cadre, ce qui précède et ce qui suit. Et puis, peut-être surtout, il y a quelque chose d'étonnant, c'est le fait qu'il y a une intrigue qui paraît tout à fait secondaire. L'intrigue première, c'est une guerre. Est-ce que Israël et Juda vont gagner leur guerre? L'intrigue secondaire qui se loge à l'intérieur, c'est le fait qu'il y ait une pénurie d'eau, un problème à résoudre avant même de conquérir Moab éventuellement. Donc c'est une raison pour laquelle beaucoup d'exégètes pensent que c'est, une raison de plus, pensent que c'est secondaire. Alors maintenant, ça va encore plus loin que ça. Parce qu'il y a un motif que j'ai noté en rouge, le motif de l'eau, qui est utilisé de deux manières, semble-t-il. L'eau sert à deux choses dans ce récit. L'eau sert d'abord à ravitailler, entre guillemets, l'armée d'Israël et puis leurs troupeaux. Hein, c'est ce que dit Élisée, faites des fosses, il y a de l'eau qui va arriver dans le Wadi, dans le ravin, et puis vous aurez de quoi boire pour vous et puis pour vos animaux. Mais ce qui est très étonnant, c'est que le texte rebondit là-dessus un petit peu plus loin, je l'ai mis en rouge. Les Moabites regardent et ils voient le soleil qui brille sur l'eau, et ils voient face à eux de l'eau rouge comme du sang. Il y a un jeu de mots avec Édom. Édom veut dire rouge, hein, on est dans la région d'Édom. Il y a un joli petit jeu de mots ici. Et donc le fait que ce motif de l'eau soit utilisé de deux manières différentes, ça suggère à beaucoup d'exégètes qu'il y a là deux motifs, deux petits récits qui ont été rapprochés. On aurait d'une part le récit prophétique qui est en retrait sur votre feuille, versets 9 à 19 approximativement, et d'autre part un récit de mirage qui implique les Moabites. La personne qui aurait inséré le récit sur Élisée aurait pris soin de rebondir sur ce problème d'eau. Alors d'autres exégètes pensent que le tout peut se lire ensemble en supposant simplement que, disons, on fait d'une pierre deux coups, sauf que c'est l'eau, cette fois-ci on en fait deux coups, voilà. C'est aussi une lecture qu'on peut faire, mais la question mérite d'être posée. Il y a également des gens, j'ai rajouté une barre bleue, comme vous voyez, qui voudraient isoler les versets 18-19. Et il y a des raisons intéressantes de faire cela. C'est que les versets 18-19 rajoutent quelque chose à l'oracle d'Élisée qui n'était pas demandé du tout par les rois qui l'ont consulté. Ils l'ont consulté simplement pour le problème d'eau. Il leur répond en disant « Vous aurez de l'eau ?» Mais ça, c'est pas grand-chose aux yeux de Yahvé. Il va en plus livrer Moab entre vos mains. Et cela apparaît un peu comme une afterthought en anglais, hein, une pensée qui vient après coup. Hein, et semble être relié à ce qui précède par la formule « ce sera peu de choses aux yeux de Yahvé ». On aurait l'idée qu'on a rajouté quelque chose comme ça. Je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard, parce que c'est lié aussi au verset 25 qu'on va examiner dans un instant. C'est une possibilité, évidemment on peut aussi le lire synchroniquement, donc prenons le texte tel qu'il est, comme le fait que simplement Élisée est consulté pour une pénurie d'eau, mais il a bien conscience que le problème général, c'est celui de la conquête de Moab. Il y a aussi des gens qui font cette lecture. Donc pour l'instant, ce que l'on retient, c'est qu'il y a un consensus au moins sur l'idée d'isoler un texte sur Élisée qui aurait été rajouté. Je ne vais pas rentrer dans les thèmes, mais je vous signale qu'il y a des exégètes, comme Ruth Sobervein, en 2014, dans un livre, qui propose de faire d'autres distinctions au sein même du récit prophétique. Parce qu'il y a des répétitions, vous avez une phrase qui est répétée en rouge, par exemple, ici. Donc, Ruth Sauerwein pense que ce que j'ai mis en italique au verset 13-14 serait une sorte de développement interne au texte. Bon, ce qui est bien sûr possible en théorie. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'indices de critique littéraire, à part cette répétition pour le défendre, donc je ne souscrirai pas immédiatement à cela. Je pense que la répétition de la phrase, c'est deux fois le roi Yoram qui dit « mais il y avait contre nous », ça c'est peut-être un motif pour souligner qu'il n'a pas... qu'il manque de foi en Yahvé, ça pourrait s'expliquer de manière purement narrative. Et puis j'approche de la fin. On pourrait également, et c'est une hypothèse intéressante, postuler que le texte de départ ne mentionnait pas Judas du tout. Il mentionnait peut-être le roi Josaphat ou un roi de Judas à un certain stade, mais peut-être pas au début. C'est une idée intéressante parce que les récits sur Élie et Élisée, normalement, ce sont des récits du royaume du Nord, hein, qui, à la base, sont vraiment des récits israélites, des prophètes qui œuvrent dans Israël, royaume du Nord. Donc on pourrait se demander, finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de secondaire ? La difficulté avec cela, vous voyez, il y a une sorte de point d'accroche entre chacune des parties du texte, et c'est ce qui complexifie notre tâche. Si l'on retire, entre guillemets, tout ce qui concerne l'alliance entre Israël et Juda, donc ce sont des versets que j'ai mis en italique, et qui se trouvent essentiellement dans le récit sur Élisée, ben le problème, c'est que le récit du mirage, qu'on pense souvent à un deuxième récit, hein, plus bas, présuppose l'alliance. Puisqu'on, les Moabites, il y a du sang, les rois, donc les rois d'Israël et de Juda, se sont entretués, s'ils parlent des rois au pluriel. Si donc on veut penser que le texte primitif n'évoquait que Juda, il faudrait, disons, faire un petit peu de chirurgie et de critique littéraire et supposer que les rois se sont entretués et secondaires. Et on resterait avec un récit où il y a eu des gens qui se sont entretués au sein de la même armée. Alors peut-être, hein, c'est pas ultra évident hein, qu'ils s'entretuent au sein de la... c'est plus facile si ce sont des rois de deux armées qui collaborent et qui s'entretuent. Mais je vous signale cette hypothèse. Ça va encore plus loin que ça, et là les exégètes ne font pas toujours attention à ce problème, je crois. Ça va encore plus loin que ça parce que le début de votre texte, dès le verset 7, fait intervenir l'alliance entre Israël et Juda. Autrement dit, le problème, si on veut penser qu'il y a une alliance Israël-Juda qui est vraiment un ajout, eh bien il faut aussi retirer probablement les versets 7 et 8. Donc ça, il faudra y penser. Vous voyez, les textes sont tissés entre eux. Alors, j'en viens à la fin, et je vais faire très vite. La fin, c'est la fameuse fin où il y a un retournement de situation. Je vous ai présenté une diapositive avec le texte qui serait le texte ultra court du récit primitif. Donc, on aurait simplement les versets 4 à 6, révolte de Moab. Le roi Yoram organise son armée. Plus loin, les Israélites se lèvent, ils frappent les Moabites. Les Moabites sont enfuis devant eux. Les Israélites vont conquérir les Israélites vont conquérir des villes de Moab jusqu'à la capitale où là ils vont devoir arrêter et se retirer. Ce serait un récit purement israélite, sans mention de Juda. C'est une option, mais elle présente ses difficultés. J'en arrive donc à la fin du récit et la fin de mon exposé. Rassurez-vous. Cette fin donc est fameuse, elle contient l'idée que les Israélites frappent Moab, qu'ils détruisent les villes, les arbres, les sources, les bouches, etc. Et puis la réaction versets 26-27 du roi de Moab. Alors il y a quantité de discussions sur ce passage difficile. Je vais simplement vous faire remarquer une chose qui n'est pas trop connue et que les commentateurs ne citent pas. Ça vient d'un livre en espagnol de Julio Trébolé Barrera, qui est un des plus grands spécialistes de la Septante, du Livre des Rois. Il a remarqué, alors je vais vous passer les détails, mais je vous les montre pour ceux qui sont un peu intéressés. Il a remarqué que dans le texte antiochien, donc une famille de manuscrits de la Septante, il y a une sorte de redit, de répétition, avec des verbes en grec différents, mais qui pourraient revenir en fait au même texte hébreu, Vayaku et Moab, donc, et ils frappèrent Moab. Je vais vous mettre en français peut-être si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Dans ce texte grec, il y a substantiellement une répétition, ils frappèrent Moab, je l'ai souligné. Et selon Julio Trébolé Barrera, cela signalerait l'insertion du verset 20, alors 25 à alpha, c'est un petit peu compliqué, mais c'est ce qui est en rouge dans mon texte. On aurait inséré cela. Alors pour vous rendre attentif à ce dont il s'agit, c'est l'accomplissement littéral point par point en ordre inverse de ce que Élisée a dit au verset 19. Et longtemps avant cette remarque de Julio Trébolé, il y avait Nelson Gluck qui avait proposé que les versets 18-19, sur les arbres, les sources, etc., et ce passage en rouge, étaient solidaires et étaient secondaires. Ce serait une façon de raccrocher le texte prophétique, peut-être, ou un de ces états, à la péricope la plus ancienne. Donc c'est une hypothèse qui est un petit peu spéculative, parce qu'il faut reconstituer l'hébreu derrière le grec, mais j'avoue que je l'aime beaucoup, alors j'essaie de l'adopter à titre, disons, au moins d'hypothèse de travail pour l'instant. Si je fais un bilan, et c'est ma dernière diapositive, on peut faire quantité de propositions sur ce texte-là. Certains auteurs préfèrent le lire de manière purement synchronique. Ils estiment que les versets 4 à 27 peuvent se lire tels quels, sans difficulté majeure. Et c'est vrai, il y a des difficultés, mais elles n'empêchent pas le texte de se lire actuellement. Cependant, le récit, qui est peut-être le scénario le plus classique, postule une insertion prophétique, un récit initial, disons, militaire, accompagné peut-être du récit sur le mirage, ça pourrait se faire. Si vous lisez simplement la traduction que je vous ai proposée, en allant du verset 8 au verset 20, ça se suit très bien, par exemple. Et puis, l'épisode sur Élisée qui aurait été inséré, avec éventuellement, alors, peut-être à un certain stade, les versets 18-19, l'annonce précise d'Élisée sur les arbres, les sources, etc., et son accomplissement au verset 25 à Alpha. Ça serait, disons, une position relativement prudente. Mais il y a quand même une difficulté là-dedans, je vous l'ai signalé tout à l'heure, c'est que le parallèle avec le texte sur Josaphat, en 1 Roi 22, il court non seulement le long du texte sur Élisée, mais également sur les versets 7-8 qui précèdent. Dès le verset 7 et 8, on a un écho à 1 Roi 22 qui se poursuit dans le texte que j'ai mis en retrait sur votre polycopier. Ça pourrait donc donner lieu à un scénario plus compliqué que je vous présente simplement à titre d'hypothèse qui pourrait être présentée. Je ne dis pas que ce serait mon hypothèse définitive. Selon cette hypothèse, il y aurait un récit initial purement israélite, versets 4 à 6, et puis toute la fin, versets 24-27. Alors je crois que Hervé Gonzalez a proposé quelque chose comme ça dans le catalogue de l'exposition, quelque chose qui approche cela. Donc voilà, Hervé. Ça serait le récit le plus ancien. On aurait inséré peut-être le récit sur le mirage, sans l'idée que les rois se sont entretués, sinon on a besoin de l'alliance avec Israël. Et dans un troisième temps, on aurait rajouté le récit sur Élisée, qui implique l'alliance entre Josaphat et Joram. C'est un scénario parmi d'autres, on ne pourra jamais être certain, c'est nécessairement spéculatif, mais il y aurait trois étapes, trois traditions. D'abord un récit ultra court, récit purement historiographique, entre guillemets, à la façon antique, d'une conquête avortée, à cause d'un sacrifice mystérieux à la fin. Puis, peut-être dans un deuxième temps, le récit sur le mirage, qui est un récit qui ressemble à d'autres récits bibliques. On trouve ça un peu plus loin dans le Livre des Rois, une sorte d'illusion d'optique ou une illusion sonore où l'on croit qu'une armée s'entretuait et puis on est dupé par cela. Et puis, insertion d'un épisode sur Élisée. Mais à ce moment-là, le prix à payer, ce sont des hypothèses qu'on peut juger spéculatives si l'on veut. On aurait raccroché ce récit sur Élisée avec le récit sur la défaite, avec des petits mots crochets qu'il faudrait donc chirurgicalement prélever. Alors cela arrive que dans les manuscrits, l'on voit des ajouts de ce type-là. Donc c'est une possibilité, mais ça reste nécessairement spéculatif. Alors je conclue simplement avec une phrase d'un commentateur, Walter Brueggemann, qui normalement est un théologien, mais qui a écrit un commentaire sur le Livre des Rois. Et au moment où il parle de la colère, la fameuse colère très mystérieuse du Livre des Rois, il dit « Mais colère de qui ? De Yahvé, de Kémosh ?» Il dit « Le texte ne le dit pas. » Et il a cette phrase « The most remarkable fact about the narrative is that everything we would most like to know is left unsaid. » Merci de votre attention.